En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Dans quelques instants, écoutez Michel Campillo, géophysicien, professeur à l'université Joseph Fourier. Il vous livre les détails d'une sismologie continue ou comment des variations faibles associées à des déformations en profondeur sont observées sur quelques heures à plusieurs années. Cette conférence avait lieu en avril 2009 au Bureau des Longitudes à l'Institut de France. Pour profiter pleinement de cette séance, nous vous invitons à télécharger le support visuel de Michel Campillo. Vous le trouverez sur la page correspondant à la conférence de notre intervenant.
J'ai commencé par faire une introduction sur la question d'utilisation du bruit ou des champs diffus. Ensuite, donc, je parlerai un peu de l'origine du bruit et de la question de la diffraction multiple dans la Terre. Et puis, tout de suite, nous rentrerons dans la question des mesures répétées et de cette question de savoir si on est capable de détecter des changements dont on sait qu'ils vont être très petits dans la Terre. Ensuite, je viendrai sur un peu mon sujet favori, qui est lié à la CODA, aux ondes tardives dans les sismogrammes, parce que vous verrez que c'est une des questions centrales dans cette discussion. Et enfin, je vous montrerai des applications de suivi temporel basées sur ces idées, à la fois dans le contexte volcanique et dans le contexte de failles sismogènes. Alors, ce qui a changé ces dernières années pour les sismologues, c'est, comme souvent dans le développement des sciences, ce sont des aspects instrumentaux. On a vu se développer des réseaux sismiques de plus en plus denses, nombre de stations de plus en plus important, et puis on s'est mis à enregistrer les signaux de façon continue, alors qu'avant on se concentrait sur les tremblements de terre. Mais les moyens de l'informatique le permettant, on a maintenant des grands réseaux qui enregistrent en permanence ce qu'on a pris l'habitude avec le temps d'appeler le bruit. Alors bien entendu, tout ce dont je vais vous parler, ce n'est pas du bruit au sens instrumental. Il n'est pas question de bruit électronique, de défaut d'enregistrement. Il est question de l'agitation permanente de la surface de la Terre, qui est un signal physique comme un autre, mais que les sismologues ont pris la mauvaise habitude d'appeler le bruit. Alors on dit le bruit sismique par opposition au bruit tout court, et moi je vais donc vous parler de ce bruit sismique. Alors, dans le cadre de notre exposé, on ne va pas essayer de détailler tous les aspects très longuement, mais un point important, c'est que ces dernières années, on a pu étudier mieux l'origine de ce bruit, de cette agitation permanente. Alors, pour simplifier, autour d'une période d'une seconde, à quelques dizaines de secondes, c'est-à-dire le domaine de période dans lequel va se situer ma présentation, le bruit provient essentiellement de l'agitation océanique. Il s'agit d'un effet de l'agitation permanente des océans, de la houle, des vagues, qui se traduit par un couplage en vibrations de la Terre solide, lesquelles vibrations se propagent, comme se propagent les autres ondes sismiques, et on observe partout sur la Terre un bruit global. Alors, c'est une chose qui est importante pour la suite, c'est qu'on a des sources de bruit qui sont permanentes, une agitation continue des océans. On connaît assez bien les mécanismes qui font appel à des interactions non linéaires entre les ondes à la surface de l'eau et qui produisent ces variations de pression à la base. Et on dispose d'une source qui est vraiment continue et qui est vraiment globale. Alors, vraiment globale, c'est le fait que dans ces gammes de périodes, on n'est pas sensible au bruit qui vient de juste à côté de nous, on est vraiment sensible à du bruit qui vient des océans lointains. Alors, par exemple, on avait fait une mesure en Californie du Sud et on regardait entre l'hiver et l'été d'où venait le bruit. Alors, bien entendu, en Californie du Sud, on se dit que le bruit vient du Pacifique, ce qui est absolument vrai l'été, mais ce qui est faux l'hiver. L'hiver, en Californie du Sud, le bruit vient de l'Atlantique Nord. Parce que l'excitation est beaucoup plus forte dans l'Atlantique Nord et les ondes sismiques peuvent se propager sur très grandes distances. Donc, un bruit global, quelque chose donc qui va nous aider dans la suite. Et donc, imaginons maintenant la situation où on a des enregistrements à deux stations de ce bruit, en supposant que ce bruit provient de sources qui sont un peu partout sur la Terre. On ne sait pas très bien, c'est un peu la... spécificité de ce qu'on va essayer de faire là, c'est qu'on va essayer d'exploiter un signal dont on ne comprend pas tout, disons qu'on ne comprend pas tout le déterminisme, mais on va voir qu'on peut quand même en tirer des informations tout à fait déterministes. On imagine donc ce bruit qui correspond à des ondes qui viennent de toutes les directions, et puis la Terre est un objet complexe, donc ces ondes se diffractent, comme la lumière dans le brouillard, et puis on a un signal très complexe, impossible à expliquer point par point en disant « cette arrivée provient de là », etc. Et ce signal-là, malgré tout, il consiste en des ondes sismiques qui vérifient tous les mêmes propriétés microscopiques, les mêmes équations des ondes qui régissent les vibrations dans la Terre. Et donc, on peut se dire intuitivement que, de même que quand un tremblement de terre se produit quelque part, on l'enregistre ici, c'est-à-dire qu'il y a des perturbations qui viennent là, on se rend bien compte qu'il n'y a pas de décorrélation entre les mouvements de la Terre en un point et les mouvements de la Terre en un autre, ne serait-ce que parce qu'on a toujours cet effet de propagation d'ondes. Donc cette idée un peu simple et intuitive, elle a une expression connue, qui passe par le calcul de ce qu'on appelle la fonction de corrélation, qui traduit le degré, comme son nom l'indique, de corrélation entre les signaux et qui permet d'habitude de mesurer les écarts de temps entre deux fonctions. Et cette corrélation entre les signaux qu'on observerait en A et B, même si on ne les connaît pas très bien, sous certaines conditions, eh bien, on a des résultats mathématiques déjà anciens qui n'ont pas été du tout établis pour la sismologie, mais qui vont nous aider tout aussi bien, qui s'expriment par un théorème qui est connu, enseigné, qu'on appelle le théorème de fluctuation-dissipation, qui est souvent enseigné pour expliquer les propriétés de corrélation du champ de l'agitation thermique dans les corps. Et ce que nous dit ce théorème, c'est que si on regarde la corrélation entre deux points, A et B, sa dérivée, on prend sa dérivée, et c'est proportionnel à la réponse du milieu, qu'on appelle G ici, la fonction de Green, la réponse de milieu entre les deux points. Donc, quelque chose qui est une propriété ancienne, connue, mais qui a un petit côté quand même étonnant, un peu non intuitif, si on a un milieu, si on a un champ d'onde qui serait quelque part parfaitement aléatoire, eh bien, la corrélation entre deux points existe, il y a une corrélation qui existe, les enregistrements ne sont pas indépendants parce qu'ils sont régis par la même équation des ondes dans le milieu, et on a une forme très simple de cette non-indépendance, c'est que la corrélation entre les deux points, c'est exactement la réponse du milieu entre les deux points. Et en fait, la réponse habituelle pour les temps positifs, et puis aussi une réponse qui correspond au temps négatif, c'est-à-dire à des ondes qui parcourraient le temps dans le sens opposé. Ce n'est pas des ondes divergentes, mais des ondes convergentes. Donc, on a cette propriété ancienne. Alors, cette propriété ancienne, on peut l'utiliser, nous, on voit tout de suite l'intérêt pour nous. L'intérêt, c'est qu'elle signifie que si on est capable de faire la corrélation d'un champ où on fait simplement de l'écoute, eh bien, c'est équivalent à avoir fait l'expérience d'avoir mis une source à une des stations et enregistré la réponse de la Terre à l'autre station. Donc l'essence de la méthode qu'on veut utiliser, c'est cette propriété-là, qui était donc connue dans des formes, comme je vous l'ai montré bien auparavant. Alors maintenant, nous, bien sûr, le bruit dont on parle, ce n'est pas du tout un bruit thermique. C'est un bruit donc qui est lié à des excitations de sources à la surface de la Terre. Et donc, on a une part d'aléatoire qui vient de la distribution des sources à la surface de la Terre. Donc, on imagine, maintenant, pour se mettre dans notre problème sismologique, qu'on a effectivement des sources qui sont allumées quelque part en permanence avec une forme de caractère aléatoire. Et puis, donc, c'est ce que l'on enregistre dans notre réseau, ici. Ça, c'est une source de caractère aléatoire des champs sismologiques. Puis, il y a une deuxième source qui est liée au caractère hétérogène de la Terre. C'est-à-dire que si on a une source ici, déterministe, un tremblement de terre, et puis une station ici, on observe bien sûr une onde que l'on a tendance à représenter par un ray, comme on le ferait avec la lumière, mais ce qu'on observe aussi, c'est des trajets multiples, complexes, qui vont créer un signal très compliqué, qui dure longtemps, et qui traduisent ce phénomène de diffraction multiple. Et qui font que, au lieu d'observer simplement une onde qui arriverait à un temps donné, un peu comme en acoustique quand il y a une explosion, on entend l'arrivée directement d'un bruit, nous on entend beaucoup de réverbérations pendant très longtemps. Et c'est ce qu'on appelle la coda, la queue des sismogrammes, comme dans les morceaux de musique, on reprend le thème très longtemps, et on a ces arrivées qui ont fait des chemins, vous voyez, beaucoup, beaucoup plus longs que les ondes directes.
Mais très longtemps, ça veut dire quoi?
Ça veut dire, par exemple, si vous prenez un tremblement de terre local, le temps de propagation des ondes, ça va être quelques secondes, à quelques dizaines de secondes. Et vous pouvez observer la coda jusqu'à plusieurs centaines de secondes. Donc des chemins, pour un tremblement de terre local, typiquement, vous observez des chemins qui ont une longueur de 1000 km. Donc les ondes sont propagées par des chemins très très complexes. Alors maintenant, on a essayé de raffiner un petit peu ces questions-là et de regarder si on a des théorèmes du même type qui vont nous aider directement en sismologie. Alors je vais aller très vite. Si on prend un milieu élastique, aussi compliqué qu'on puisse l'imaginer, hétérogène, avec des failles, la Terre, et qu'on imagine qu'on distribue des sources partout dans ce milieu, et qu'on regarde les propriétés de corrélation, eh bien, quelle que soit la complexité du milieu, on a une propriété mathématique que l'on doit à mon collègue de Grenoble, Yves Colin de Verdière, qui nous donne exactement la forme de ce théorème de fluctuation-dissipation. Donc vous voyez que cette forme, qu'on va appeler théorème de corrélation, s'applique dans ce cas-là. Alors vous voyez que pour nous, ce n'est pas un cas idéal, parce que bien sûr, mathématiquement, on met des sources dans tout le milieu de façon parfaitement décorrélée, mais l'exercice-là est intéressant parce qu'il est indépendant de la complexité du milieu. C'est une propriété des opérateurs, ce n'est pas une propriété d'un cas particulier. Alors bien sûr, pour la sismologie, on a des limitations à cette approche. La distribution des sources, a priori plutôt à la surface. Mais on se rend compte que si on essaye de l'appliquer cette idée brutalement à des données sismologiques, eh bien on se rend compte qu'effectivement, quand on prend des enregistrements du bruit et qu'on fait cette opération de corrélation, on reconstruit des sismogrammes qui sont les mêmes que ceux qu'on aurait si on avait un tremblement de terre. Et donc, à partir de ça, eh bien, on a pu prendre des stations sismologiques et fabriquer des sismogrammes. Alors, l'intérêt, c'est qu'on peut en fabriquer autant que l'on veut. Il suffit de mettre des stations sismologiques, on ne dépend pas des tremblements de terre, on installe nos stations et on va reconstruire des sismogrammes entre chaque couple de stations. Ce qui veut dire que si on installe 100 stations, on fabrique 10 000 sismogrammes. Et à ce moment-là, on est dans une situation où on peut faire une imagerie avec une très bonne résolution, parce qu'on peut se permettre de se mettre dans les situations proches de l'imagerie médicale, où le radiologue contrôle ses sources. Alors que le sismologue, d'habitude, il dépend des tremblements de terre, et donc il ne peut pas arriver à ces résolutions-là. Donc, ça, c'est un premier point. On a vu que ça marchait il y a déjà quelques années. Ce résultat date de 2005 ou 2004. Maintenant, le fait que la Terre soit complexe, étonnamment, ça va nous aider. Ça va nous aider parce que si on a la diffraction multiple qui est en ordre, eh bien, on va produire un état des ondes qu'on appelle les Q-partitions, qui signifie simplement, qui signifie dans un cas simple quelque chose de simple, qui est que si vous imaginez le brouillard et une source lumineuse, quand on est dans le brouillard, les ondes se sont diffractées sur toutes les gouttelettes, d'une manière qui nous apparaît comme étant aléatoire, puisque c'est la position relative des gouttelettes qui va déterminer les différences de phase. Et on est dans un état où On ne voit plus la source, on ne voit plus le soleil et on n'a pas d'ombre. Ce qui signifie qu'on est éclairé de façon parfaitement homogène. Alors, on pourrait dire ça, toutes les ondes qui existent dans ce cas-là, qui sont toutes les ondes qui se propagent dans toutes les directions, elles sont toutes excitées, statistiquement au même niveau. Et ce phénomène-là, qui est assez simple à comprendre dans le cas du brouillard, ce qu'on appelle en général l'équipartition. Alors c'est un peu plus compliqué quand on a affaire à des ondes qui sont un peu plus compliquées que des ondes qui se propagent directement dans une direction, mais le principe est le même. Et ce que l'on montre facilement, c'est que quand on est dans un état de ce type-là, et que l'on calcule la corrélation de deux points qui sont noyés dans ce champ, on retrouve, une fois de plus, exactement le théorème de corrélation. Donc vous voyez qu'en fait, on a deux raisons qui sont les deux imparfaitement satisfaites dans la Terre, mais qui les deux conduisent à faire que cette propriété doit marcher. Donc c'est cette propriété qu'on veut utiliser dans nos analyses sur la Terre, sur la structure de la Terre, éventuellement sur sa variation. Je vais vous montrer des applications, plutôt que de rentrer dans des points de détails techniques qui ne sont pas très importants. Application à l'imagerie. Une application intéressante, c'était le piton de la Fournaise. Le piton de la Fournaise, comme vous le savez, c'est un volcan actif, à La Réunion, avec un effort d'observation depuis de nombreuses années, avec un réseau de stations sismologiques ici, qui sont les stations de l'observatoire du piton de la Fournaise, qui est géré par l'Institut de physique du globe de Paris. Donc voilà. Donc utilisant ces données, on a pu faire les corrélations entre les différentes stations et reconstruire des sismogrammes, une collection de sismogrammes, comme si on était allé faire une expérience de sismique pétrolière en quelque sorte, à partir de laquelle on a pu faire une image tridimensionnelle de l'édifice volcanique. Et c'est une image qui montre les vitesses des ondes de cisaillement. Et ce qui nous intéresse quand même fondamentalement, et ce dont je voudrais parler ici, c'est la question de surveillance en utilisant ce bruit qui se répète. Parce que contrairement au tremblement de terre, qui existe par séquence et qui existe que dans certaines régions du monde, on a cette source d'information permanente qui est ce qui est lié à l'agitation des océans. Alors on va essayer de regarder comment on peut faire ces tomographies. Alors, jusqu'à maintenant, il y a eu des efforts qui ont été faits pour faire des mesures très très précises de variations temporelles basées sur l'idée que la source pouvait se répéter. Alors pour ça, il y a deux façons de faire. Soit on la répète parce que c'est une source qui est un artefact, une explosion, ou bien une masse qui s'agite à la surface de la Terre, ou bien certains petits tremblements de terre se répètent en série en fonction du temps, et on trouve des signaux qui sont vraiment très très proches. On les appelle des doublets, quand il y en a deux, ou des multiplets, quand il y en a une série. Et un de mes collègues, Georges Poupinet, avait développé, il y a une vingtaine d'années, une technique qui permettait de faire des mesures très précises. Alors l'idée était très bonne, je vais vous en reparler aussi. Le problème, c'est qu'elle est complètement dépendante de l'occurrence de ces petits tremblements de terre. Donc on peut faire des mesures de comparaison lors de ces événements qui sont finalement rares. Alors maintenant, comment faire des mesures très précises de changements temporels? En fait, ce que l'on va faire, c'est comme avec les sismogrammes classiques, c'est là où intervient la méthode de mon collègue Poupinet, on utilise les ondes de la coda parce qu'elles ont fait des chemins beaucoup plus longs. Et si vous voulez mesurer une variation de vitesse, il est bien évident que si vous essayez de la mesurer sur une onde qui a fait 1 km, eh bien vous trouvez une erreur de temps, bon, qui est-ce qu'elle est. Si vous le faites avec une onde qui a fait 1000 km, la variation de temps, c'est 1000 fois plus. Donc il y a un très grand intérêt à ne pas travailler sur des ondes qui ont fait des trajets courts, mais travailler sur des ondes qui ont fait des trajets longs. Et ces ondes de la diffusion multiple, elles ont cet avantage qu'elles vont accumuler les délais sur des trajets qui vont être, qui vont être très longs. Et vous constatez que plus l'onde se propage longtemps, plus elle va arriver tard dans notre signal. Mais plus elle va arriver tard, plus elle aura accumulé d'erreurs, enfin de changements de temps. Et donc, l'idée est toute bête. Si on prend un signal et qu'on le compare avec une référence, qu'on veut voir qu'entre les deux, il y a eu un changement de la vitesse, ce que l'on s'attend à voir, c'est qu'en fonction du temps, le décalage, il augmente linéairement avec le temps dans le sismogramme. Et que ce qui va nous intéresser, donc, c'est de mesurer cette pente. Et on montre très facilement que cette pente, c'est exactement l'opposé de la variation de vitesse. Et donc, c'est un outil très simple pour mesurer une variation de vitesse. Sur les sismogrammes, c'est assez facile de se dire, ah, à ces temps longs, je suis certain que j'ai affaire à des ondes qui ont fait des chemins plus longs. Et donc, je peux leur attribuer cette propriété de décalage de temps. Ça l'est un petit peu moins pour nos questions de corrélation. L'autocritique que l'on peut se faire, c'est on n'a pas le droit d'utiliser quelque chose comme ça sur des signaux qui ne sont pas eux-mêmes des signaux physiques parfaits. Nos corrélations ne sont pas parfaites, on ne retrouve pas exactement tous les détails. Donc a-t-on le droit d'utiliser ces méthodes? Donc en d'autres termes, est-ce que la partie tardive des corrélations contient bien des ondes diffractées? Et donc ça, c'était la question qui moi, m'a fait beaucoup souci là-dedans. C'est, on ne peut pas utiliser ces méthodes-là, donc on peut faire des mesures que sur les ondes directes, on sait qu'elles ne sont pas précises, et on s'en sortira jamais. Mais on a fait une petite expérience de physique encore, avec nos données. On prend deux stations, c'est la Suisse. Les sismologues français travaillent avec les stations suisses, parce que les Suisses ont beaucoup plus de stations que les Français. Donc voilà des stations en Suisse. Donc deux stations en Suisse, et on peut faire des calculs de corrélation avec le bruit ambiant de ces stations. Ça, c'est ce qu'on fait d'habitude. Mais essayons une autre stratégie. On va prendre une autre station, donc une station C. Je vais prendre la station T et je vais calculer les corrélations entre A et C et B et C. Je vais dire, dans les deux cas, je vais trouver la réponse de la Terre entre C et B, puis entre C et A. En fait, je vais obtenir des fonctions de corrélation comme ça. Et j'ai toute ces longs temps ici que je ne sais pas interpréter. Je n'ai pas de comparaison là pour le faire. Néanmoins, je peux faire le raisonnement que j'ai fait tout à l'heure avec les tremblements de terre. C'est-à-dire, ces temps-là, ce qui est en rouge ici, ça correspond à la coda des sismogrammes. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez les ondes directes, plus du bruit. Et ici, vous ne voyez pas que du bruit, vous voyez toujours un peu de bruit, de mesure, de corrélation qui est imparfaite, mais vous voyez aussi les ondes de la coda. Alors comment est-ce qu'on peut en être sûr? On peut essayer de réutiliser la propriété dont on parlait tout à l'heure. Si c'est vrai, ça signifie que dans ces ondes-là, pour des stations différentes, elles doivent être corrélées. Et elles doivent être corrélées d'une façon qui, là encore, devrait être la réponse de la Terre entre les deux points. Donc si je prends ces parties tardives, que je les recorrèle, c'est comme si j'avais une source en C et que je regarde la coda enregistrée aux deux stations ici. Quand je les recorrèle, je devrais retrouver la trace entre A et B, si tout était parfait. Et il y a mille raisons pour penser que ça ne marche pas. Mais on peut quand même faire l'expérience quand on est têtu. Et vous voyez qu'on exclut les ondes directes. On prend que ces signaux-là. On exclut les ondes directes. On fait l'opération avec un C, et puis après tout, on va le faire avec toutes les stations dont on dispose pour augmenter nos corrélations, enfin nos signaux sur bruit intrinsèques. On le fait, on fait les corrélations, voilà ce qu'on trouve. Voilà un exemple réel. Deux stations ici. On a calculé la réponse en rouge, qui est la réponse normale, celle qu'on sait calculer avec le bruit quand tout va bien. Et puis on a calculé ici, en bleu, cette fonction C3, qui est la corrélation de la coda des corrélations. Et vous voyez qu'on retrouve les ondes directes. Ce qui montre bien que le signal tardif des corrélations, c'est encore un signal physique. Donc, on se sent autorisé à l'utiliser pour mesurer des variations temporelles. Et donc, allons tout de suite aux applications. On va aller au Piton de la Fournaise encore. On reprend le réseau et on va calculer une fonction de corrélation de référence. Ici, elle est calculée sur 18 mois. Bien sûr, il n'y a pas, si les choses changent, c'est difficile de définir une référence. Donc, on va prendre comme référence l'état moyen sur 18 mois. Donc, 18 mois de bruit continu. La fonction de corrélation, elle est présente ici. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des périodes beaucoup plus courtes. Et pour chacune des périodes, on va essayer de comparer ce que l'on observe avec cette référence. Voilà typiquement le genre de choses qui est faite. On a à une date un signal, à une autre date un autre signal. Si on les regarde, c'est les mêmes à l'œil. Ils se ressemblent beaucoup. Mais si on fait une analyse des décalages de temps, on s'aperçoit que par rapport au temps zéro, vous voyez que le décalage ici, positif, il augmente avec la durée dans le sismogramme, comme le prévoit un modèle où il y a eu un changement de vitesse. Alors, ce n'est pas vrai toujours, vous avez d'autres dates où, vous voyez, c'est à peu près plat, il ne s'est pas passé grand-chose. On va mesurer ces variations de temps pour chaque date courante par rapport à la référence, et on va trouver une courbe qui va nous donner les variations relatives de vitesse en fonction de la date. Vous voyez ici les variations relatives du temps, où la variation relative de vitesse, c'est la même chose, au signe près. Et ici, vous avez la date, on est de juillet 99 à décembre 2000. C'est déjà de la sismologie continue. On fait une mesure continue en fonction de la date, et on voit une courbe ici qui nous montre des variations. Alors, si on la suit, vous voyez, sur toute la date, vous avez ici un pic, c'est-à-dire le délai augmente, c'est-à-dire la vitesse diminue, puis la vitesse oscille, la vitesse diminue, la vitesse oscille, la vitesse diminue, la vitesse oscille, etc. En fait, chacun de ces pics, ici, se produit juste avant une éruption. Les éruptions ont lieu entre les barres vertes. Et vous notez qu'on a cette évolution avec une vitesse minimale avant l'éruption, puis une oscillation, vitesse minimale, oscillation, vitesse minimale, oscillation, vitesse minimale, etc. Depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui, il a été vérifié par nos collègues de l'Observatoire que systématiquement, avant chaque éruption, on observe ce signal. Donc c'est un signal précurseur. La variation de vitesse, dans ce cas-là, c'est un signal précurseur des éruptions volcaniques. Donc en soi, c'est déjà un résultat intéressant, mais si on revient à l'aspect sismologique de la chose, ce qui est important, c'est de regarder l'échelle qui est là. Je ne vous ai pas parlé de l'échelle, mais la variation ici, donc la variation du délai relatif ou de la vitesse relative, elle est mesurée en pourcent. Et vous voyez que pleine échelle, la variation, c'est 0,1%. Et qu'en dehors des phases où on a des éruptions, les fluctuations, ici, elles sont de l'ordre de 10-4. Donc, c'est des variations qui sont extrêmement petites et extrêmement subtiles qu'on essaye de mesurer et qu'on arrive à mesurer dans ces cas-là. Alors ici, vous avez la sismicité qui était indiquée. Hein, je vous montre la figure ici. C'est les séismes qui se sont produits, le nombre de séismes qui se sont produits. Et vous voyez, par exemple, que ici, on a cette décroissance de vitesse qui se passe à un moment où il n'y a absolument pas de sismicité. Donc c'est une mesure complètement indépendante de la sismicité. Alors, si on revient, maintenant en mettant ensemble toute notre analyse du bruit au Piton de la Fournaise, vous voyez l'image satellite du Piton, le cratère d'Olomieu, la caldeira. On avait fait cette image à 3D ici, avec le corps rapide, massif, qui en fait est lié à l'intrusion des laves, ici, que l'on a vu tout à l'heure. Et puis ce que l'on va regarder, c'est sur ce carré ici, on va regarder en fonction du temps comment se distribue la variation de vitesse. Donc on va essayer de regarder à chaque instant une première image de l'endroit où se situent les variations de vitesse. Alors bien entendu, c'est une image qui n'est pas de bonne qualité, hein, la résolution spatiale n'est pas très bonne, mais vous allez voir, on observe qu'il y a une diminution de vitesse de l'ordre de 0,05% dans cette région ici de la caldeira, à une date qui est indiquée par le point rouge. Vous voyez, on voit à peu près aucune fluctuation, et puis vous voyez le rouge qui apparaît juste avant l'éruption. La chose importante, c'est que vous voyez qu'en l'absence d'éruption, on est dans des variations de vitesse qui sont extrêmement petites. Et donc, vous voyez qu'il y a bien d'ailleurs corrélation entre la géométrie ici de ce corps rapide et la zone dans laquelle on observe ces variations de vitesse. Donc ici, un exemple dans lequel, quand on arrive à faire des mesures extrêmement précises, eh bien on se rend compte que les vitesses sismiques changent avec le temps et qu'elles sont un marqueur des déformations internes de la Terre qui peuvent être utilisées pour développer des signaux précurseurs des éruptions volcaniques. Et donc tout ça est fait qu'avec du bruit, hein, toujours. Maintenant, bien entendu, vous savez que les sismologues ont une obsession familiale, génétique, à vouloir toujours chercher des signaux précurseurs aux tremblements de terre. Alors, ils n'y arrivent pas, mais ils continuent. Et donc, bien entendu, nous, on s'est dit, on va essayer de voir jusqu'où on peut aller pour mesurer des effets qui sont liés à des tremblements de terre. Alors, on a pris un exemple, qui est l'exemple de Parkfield, aux États-Unis, qui est un des exemples des tremblements de terre les mieux étudiés hein, ces dernières années, avec énormément de capteurs de différents types, de géodésie, des signaux électriques, des signaux magnétiques, des forages, de la chimie, un peu tout ce qu'on pouvait avoir comme idée qui aurait pu noter quelque chose qui soit une phase d'initiation du tremblement de terre, donc qui aurait pu montrer des signaux précurseurs, a été testé à ce tremblement de terre-là. Et je vous donne tout de suite la réponse. La conclusion désespérante pour les géophysiciens, c'est que dans ce cas-là, où on attendait le tremblement de terre, on avait mis beaucoup de moyens, on n'a pas observé de signaux précurseurs. Bon, on va quand même regarder les vitesses sismiques. On va au moins essayer de voir ce que l'on trouve. Mais ce n'est pas un cas où on s'attend à voir des choses très importantes. Donc on a utilisé un réseau de stations sismologiques, qui étaient des stations de bonne qualité, qui sont tout au fond de puits. Et le tremblement de terre se produit sur la faille de San Andreas qui correspond à cette ligne noire ici. Ici, il y a une station GPS, donc un point de positionnement géodésique dont on peut mesurer le mouvement relatif par rapport à un point fixe. Et on va répéter l'expérience que je vous ai décrite au piton de la Fournaise dans le cas de la faille de San Andreas ici. On obtient des fonctions de corrélation qui sont présentées ici en fonction de la date. Toujours la même chose, il y a une très grande stabilité dans ces fonctions. C'est-à-dire ici, c'est une fonction représentée chaque 15 jours pendant 6 ans. Hein, c'est juste un codage couleur, ça vous montre que les choses sont très stables. Et voilà des exemples de mesures de variations temporelles validées. Validé dans la mesure où c'est effectivement des variations qui satisfont bien la nécessité de la symétrie du temps, par exemple. Donc ici, le changement de vitesse relatif, en pourcent toujours. Donc ici, encore pleine échelle, on a 10-3. On a cette fois une période beaucoup plus longue, puisque vous voyez, on a 6 ans d'enregistrement. Et on voit des oscillations de la vitesse, dont certaines semblent avoir certaines caractéristiques saisonnières, donc qui pourraient être associées à des effets annuels, qui pourraient être soit liés à la météorologie, soit liés à l'hydrologie. Mais ça, on ne sait pas très bien. Il faut encore améliorer nos mesures. Et puis, vous voyez, on a un saut ici qui se produit. De nouveau, on a des petites variations. Puis là, on a un grand saut. Et puis une évolution lente pendant une période très grande. Le premier saut correspond à un tremblement de terre qui s'est produit à 70 km de notre réseau. Vous voyez, un saut qui est relativement modéré et surtout un retour rapide de la vitesse autour de la valeur moyenne autour de laquelle elle oscillait auparavant. Vous voyez, le temps caractéristique ici, c'est quelques mois. Mais quand même, un tremblement de terre de magnitude 6,6 à 70 km, sans qu'il y ait le moindre effet mesurable de déclenchement d'activité sur la faille de San Andreas, ça correspond à une variation de vitesse des ondes sismiques de l'ordre de 3 ou 3 pour 1000, ce qui n'est pas beaucoup, mais qui s'explique par l'effet d'endommagement des couches probablement superficielles ou de la zone de faille de San Andreas par le passage simplement des ondes qui sont des mouvements forts produits par ce tremblement de terre. Et puis, bien entendu, la grande variation, elle se produit de façon cosismique, elle est produite par le tremblement de terre de Parkfin, par le tremblement de terre local. En fait, l'amplitude est plus grande, mais vous voyez seulement trois fois, ce qui est presque de l'ordre de la variation des mouvements forts entre les deux séismes. Et donc, on a cet effet très clair de diminution de la vitesse au moment du tremblement de terre, où une des premières causes qu'on peut invoquer, bien entendu, c'est le même effet qui est l'effet de l'endommagement des roches par les mouvements forts produits par le tremblement de terre. Là encore, on est dans les ordres de grandeur de ce qu'on attend. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que dans ce cas-là, on n'observe pas un retour rapide, une cicatrisation rapide de tout le milieu pour revenir à la vitesse initiale. On observe une évolution beaucoup plus lente qui, vous voyez, s'étale sur des années. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder la courbe rouge. Et la courbe rouge, ce n'est pas une courbe qui a été tracée pour suivre les observations qu'on avait, c'est le déplacement de la station géodésique, le déplacement qu'on appelle post-sismique. C'est le mouvement qui a continué après le tremblement de terre et dont les causes peuvent être à la fois du glissement sur la faille de San Andreas qui a continué ou bien une réponse du milieu lui-même par des phénomènes essentiellement poroélastiques qui est en train de simplement faire la relaxation des déformations très violentes qui ont eu lieu pendant le séisme. Et donc vous voyez que dans ce cas-là, on détecte bien sûr des variations qui sont liées au passage des ondes. Bon, c'est intéressant, mais ce n'est pas le plus intéressant. Ce qui peut être beaucoup plus intéressant, c'est que la variation de la vitesse sismique, telle qu'on la mesure, ça semble être un proxy pour la déformation en profondeur. Dans ce cas-là, on a bien entendu essayé de regarder de plus en plus précisément autour de la date du séisme de Parkfield pour voir si on arrivait à détecter quelque chose, mais on ne voit absolument aucune preuve qui est le moindre signal précurseur là-dedans. Mais je dirais, pour finir sur des notes positives, c'est des méthodes qui sont très nouvelles. Il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à améliorer, en particulier la résolution temporelle de ces méthodes. Et ma dernière figure avait pour idée d'améliorer cette question de la résolution temporelle. Et voilà, ici, juste dans le cas de la Réunion, ce qu'on obtient si on cherche, en faisant un traitement brutal, la variation de vitesse avant une éruption en mesurant jour par jour. Et alors jour par jour, c'est très très peu pour calculer une corrélation. Et si on fait ça, on voit ces oscillations rapides qui cachent ce que l'on devine si on lisse ou si on prend une fenêtre glissante plus grande, c'est qu'on a cette décroissance de la vitesse avant l'éruption. Si maintenant on raffine un petit peu notre traitement et qu'on adopte des méthodes beaucoup plus raffinées, eh bien on arrive à obtenir une résolution que vous voyez ici où on se met à avoir des résolutions de quelques jours. On voit des variations sur quelques jours. Alors bien entendu, c'est une note positive pour dire que j'espère bien qu'on pourra, dans quelques années, réduire à la fois cette borne-là et la résolution temporelle et découvrir des propriétés et des phénomènes nouveaux grâce à ces techniques. Donc, quelques conclusions. Il y a quelque chose d'intéressant et d'un peu fascinant dans les relations entre le désordre et la corrélation, puisque essentiellement, pour trouver des signaux déterministes, c'est le bruit qui est pour le moment la meilleure source d'information. On voit qu'on peut faire des applications à l'imagerie des structures profondes. Je suis allé très vite là-dessus, mais c'est quelque chose d'aussi important pour la sismologie. Il y a des potentiels dans d'autres domaines qui sont en développement. Ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à un niveau de précision et des méthodes qui sont suffisamment robustes pour pouvoir faire du suivi temporel et ainsi voir une évolution permanente qui est révélée par ces nouvelles mesures. Et ça, c'est un aspect qui est tout à fait intéressant pour nous, parce qu'on est peut-être, en reprenant nos vieilles données sismologiques et des structures qu'on connaît beaucoup, en rajoutant cette dimension temporelle, eh bien on est quand même face de nouveau à une terra incognita, puisque personne ne connaît exactement les processus qui sont à la cause de ces fluctuations que l'on mesure. Merci.
C'était Michel Campillo, géophysicien, professeur à l'université Joseph Fourier. Sa communication « Nouvelle approche sismologique pour une Terre en évolution vers une sismologie continue » avait lieu en avril 2009 au Bureau des Longitudes à l'Institut de France. Restez à l'écoute de Canal Académie et téléchargez les précédentes conférences du Bureau des Longitudes. Vous les trouverez dans notre onglet « Les émissions », rubrique « En colloque ». À bientôt pour de prochaines retransmissions sur canalacademie.com.